Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre rendez-vous de musique liturgique sur Radio Présence. Vous êtes ici chez vous sur Point d'Orgue et vous l'entendez de nouveau derrière moi, la soufflerie du ventre de cet instrument incroyable de Puget dans l'église Notre-Dame du Thor. La semaine dernière, nous étions en direct depuis cette église. Là, je reste ici avec Emmanuel Pellapra. Bonjour Emmanuel.
Bonjour Jean.
Et donc, nous restons dans cette église incroyable qui va fermer ses portes pendant quelques années, et l'orgue, on vous le rappelle, qui va être entièrement démonté, révisé, etc., de sorte à faire entendre ce chef-d'œuvre de la facture d'orgue pour encore 140 ans. C'est ça, il a duré 140 ans, hein.
Absolument.
Bon, donc la semaine dernière, nous vous avions parlé un petit peu du métier d'organiste liturgique. Donc on avait vu qu'il y avait plusieurs facettes de cette profession, c'est-à-dire que non seulement, en plus de simplement, entre père de guillemets, jouer de la musique lors de la messe, vous avez bien compris que un organiste, c'était un peu un homme à tout faire, un homme orchestre. Non seulement il joue pendant la messe, mais en plus il doit déchiffrer, improviser, en plus il doit prendre soin de son instrument, et en plus voilà, faire de la recherche et faire en sorte que la liturgie et la musique liturgique soient toujours en adéquation. Tout ça pourquoi finalement, pour aider la prière des fidèles et donner un petit peu de beau aux gens qui vont à la messe. Donc c'est ça qui est extraordinaire, c'est que finalement c'est l'un des derniers bastions de la musique accessible à tout le monde. C'est ça qui est extraordinaire finalement quand on est organiste, et qu'on peut faire partager sa passion avec tout le monde. C'est gratuit, il suffit simplement de venir à la messe, mais on invite tout le monde à y aller, bien entendu. Donc la dernière fois, nous avions parlé des pièces spécifiques pendant la messe. Donc Emmanuel nous avait joué un cantique pour montrer le côté accompagnateur de l'orgue, mais évidemment l'orgue ne se cantonne pas, si j'ose dire, à accompagner le chant des fidèles. Parfois l'orgue joue pour lui-même, pour véhiculer quelque chose, une prière la plupart du temps, et il y a des moments qui sont tout à fait spécifiques à cela. Donc on en avait dénombré quatre, en vérité il peut y en avoir plus. L'entrée, l'offertoire, la communion et la sortie. Alors, on l'a dit, il peut y en avoir plus. On avait parlé la semaine dernière des élévations. On peut penser à Frescobaldi qui en faisait des extraordinaires. Bon, évidemment, le répertoire peut être pléthorique, mais tout cela prouve une chose, c'est que en fonction des siècles, en fonction de la liturgie, la fonction d'organiste a bougé. Et c'est vrai que souvent, on a tendance à mettre les choses dans le formol, et pas du tout chez les organistes. Les choses changent énormément. Alors, il est vrai qu'Emmanuel nous a bien dit que sa spécificité, c'était le 19e siècle. Et c'est vrai que c'est une telle mine de morceaux et de chefs-d'œuvre qu'on se dit qu'on a envie de foncer dedans. Est-ce que, Emmanuel, tu as un compositeur préféré? Si oui, pourquoi?
Alors, la semaine dernière, j'ai parlé d'Alexandre Guilmant parce que c'est le compositeur marquant de la fin du 19e siècle, avec d'autres comme Vidor et Franck. Mais il a un côté assez classique finalement dans sa musique romantique. Et c'est l'organiste qui a inauguré cet instrument de Notre-Dame du Thor. Et il a beaucoup écrit, contrairement à Vidor qui n'a pas écrit de musique liturgique trop, à part sa messe, mais pour les organistes, lui, il a écrit des symphonies, vraiment des pièces de concert. César Franck aussi, à part le volume de l'organiste. Alors que Alexandre Guilmant, il a vraiment eu tout au long de sa carrière la volonté d'alimenter le répertoire des organistes, plus ou moins fort. Et donc, ça, c'est une musique qui sonne vraiment très bien sur ce genre d'instrument, bien sûr. Donc, même si ce n'est pas mon compositeur préféré, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, mais c'est sûrement le compositeur que je joue le plus pendant les offices. Mon côté musicologue reprend le dessus. J'ajouterai par rapport à ce que tu as dit, Jean, au début. On a parlé de l'accompagnement la semaine dernière, mais c'est une fonction nouvelle pour l'organiste. Au 19e siècle, l'orgue était tellement loin du chœur, là où chantait le chœur, justement, qu'en fait, il ne pouvait pas accompagner pour des questions de distance. Donc, en fait, l'organiste, quand on parle d'un titulaire d'un orgue au XIXe siècle, en fait, il faut penser qu'il ne jouait que les pièces que tu as citées tout à l'heure, l'entrée, l'offertoire, la sortie, etc. Et le chant, en fait, c'est assez nouveau. C'est depuis qu'on a des micros dans les églises que l'organiste peut se permettre d'accompagner les chants. Donc c'est vrai que c'est une fonction assez nouvelle, et que par contre, la fonction de jouer des pièces tout au long de la liturgie, elle demeure.
Mais c'est-à-dire que à une époque, je sais pas, moi je pense par exemple à Couperin, en fait ça fonctionnait par sorte de dialogue, c'est comme ça que ça fonctionnait.
Alors c'est une autre possibilité, c'est-à-dire que le chœur chantait tout seul et l'orgue jouait juste après en dialogue, mais sans accompagner le chœur. Et après on alternait comme ça, chœur, orgue, mais jamais Jamais un chanteur ou un chœur ne chantait en même temps que le grand orgue pendant l'office. C'est pour ça qu'on a construit des orgues de chœur au XIXe siècle, pour que c'est un instrument de petite taille, mais surtout situé dans le chœur, à proximité du chœur, des chanteurs, pour qu'on puisse accompagner dans de bonnes conditions.
Et j'ai une question pour rebondir avec également ce que tu as dit. Tu as parlé des organistes qui avaient composé un répertoire typiquement liturgique et d'autres qui avaient composé un répertoire symphonique. Alors déjà, on peut se poser la question de traiter, si j'ose dire, un orgue d'instruments symphoniques. Alors c'est vrai qu'en fait, quand on voit une console, c'est-à-dire là où on joue, on se rend compte qu'il y a une multitude d'instruments. Vous allez pouvoir entendre les instruments solistes de cet orchestre tout à l'heure. Mais est-ce qu'on peut jouer, est-ce qu'on a le droit de jouer une symphonie de Vidor dans une messe finalement? Est-ce qu'on a le droit de mettre un petit peu du répertoire pas sacré, mais en même temps c'est sur l'orgue? Comment on fait?
Alors la question de savoir si une symphonie de Vidor est sacrée, c'est, moi je trouve que c'est une question compliquée. Il y en a qui trancheraient en disant oui ou non. Mais c'est une question compliquée parce que à l'époque de Vidor, les orgues étaient quasiment à 99% tous dans des églises, donc il y avait quand même une dimension. Vidor, quand il écrivait pour un orgue, il écrivait pour l'église finalement. Mais c'est vrai que de par leur dimension, c'est difficile d'inclure ça dans un office, à part la sortie où c'est vraiment la plage la moins contraignante, parce qu'on sait quand on commence et après on a toute latitude de jouer si on veut 10 minutes ou 5 minutes. Mais c'est difficile, oui, de jouer un extrait d'une symphonie de Vidor ou de Franck à l'intérieur d'un office. Et c'est peut-être pas non plus la place, parce que souvent c'est des musiques virtuoses, on n'a pas nécessairement besoin de faire étalage de sa virtuosité au moment de nos offertoires, encore que c'est le meilleur endroit, ou la sortie, mais par contre à la communion, et, bon, après on peut jouer des mouvements de Vidor qui sont méditatifs et s'en est rempli, mais voilà, ici il faut toujours faire attention à ce genre de choses.
D'accord, donc là je vous disais tout à l'heure qu'on parlait d'instruments symphoniques. Alors, en vérité, il y a plusieurs esthétiques, ça je vous en avais déjà parlé dans une autre émission, mais il est vrai que certains orgues sont dits symphoniques. En tous les cas, c'est vrai qu'on peut parler d'orchestre quand on parle d'orgue. Donc vous le savez, il existe des jeux, des registres avec des sonorités différentes, et il y a certains sons. Si je lis ce qu'il y a écrit sur les boutons des jeux qui sont face à moi, vous avez des instruments de l'orchestre, vous avez la clarinette, vous avez le violoncelle, vous avez des hautbois, parfois des instruments plus anciens, le chromorne, voilà. C'est vrai qu'il y a des jeux comme ça où on se dit qu'on est face à un véritable orchestre. Et tout l'art de l'organiste, c'est l'art aussi du registrant, c'est-à-dire celui qui sait faire en sorte que ces sonorités diverses, exactement comme dans un orchestre, se mêlent et forment une même musique, que les plans sonores se rejoignent et fassent sortir une même musique. Donc peut-être que là, je vois que tu nous as sorti des pièces qui mettent en valeur ces jeux un petit peu solistes.
Oui. La semaine dernière, nous avons parlé des jeux de fond, un petit peu la base la patte de base sonore de l'orgue. Et là, je vais vous faire entendre l'autre grande famille de jeux qui sont les jeux d'anches, parce qu'ils utilisent une anche comme sur une clarinette, hein. Vous savez qu'on produit le son grâce à une anche, mais aussi la trompette, alors qui est un instrument à cuivre et en bouchure, mais là elle est produite grâce à une anche. Donc je vais vous faire entendre dans une pièce que j'ai choisie beaucoup la clarinette au début, puis après un petit peu la trompette, et je reviendrai sur la clarinette, qui sont vraiment des jeux de solistes. Et j'ai choisi pour illustrer alors une pièce qui sort vraiment du répertoire connu même des organistes, puisque c'est une pièce des années 30-40 d'un certain Camille Joly, qui était organiste à Nantes et qui a écrit un nocturne oriental. Alors là aussi, on est un peu à la frontière entre la musique sacrée et la musique profane, bien que c'est une pièce qui a été publiée dans un journal pour organistes catholiques, qui s'appelle L'Organiste, qui était très connu à l'époque, mais qui fait appel à un chant de berger, vous voyez par exemple au lointain, donc des évocations un petit peu pastorales, mais Bach a écrit des pastorales, enfin tous les compositeurs sont passés par là, peut-être une pièce qui serait plus judicieuse de jouer au temps de Noël, et qu'on pourrait jouer, ma foi, à l'offertoire ou à la communion en guise de médiation. Thank you.
Merci infiniment, Emmanuel, de nous faire découvrir de la musique comme ça. Alors, je suis un peu sans voix, c'est vrai qu'on n'a pas trop l'habitude d'entendre ce genre de répertoire. Là, c'est une belle trouvaille, merci.
D'aucuns pourraient qualifier cette musique de décadente. Mais c'est vrai que c'est une musique qu'on redécouvre avec ses... Oui, c'est... alors là, il y a un côté un peu oriental qui est un peu particulier, qu'on n'a pas beaucoup l'habitude d'entendre à l'église, mais il faut savoir que ça existait. Et toute cette mouvance d'organistes qui ont écrit les uns pour les autres, jusque dans les années 50, ça continue même aujourd'hui, il y a des revues d'orgue où on continue à écrire. Mais là, vraiment, ça a été une floraison absolument, je trouve, incroyable de pièces, de belles pièces qu'on peut redécouvrir pour le répertoire, et pour la messe et pour le concert.
D'accord. Alors, maintenant donc, qu'on a vu cette pièce qui était assez évocatrice, le côté champêtre, moi, je l'ai bien trouvé. Effectivement, on pense à une espèce de... Je ne sais pas si on pouvait parler du fifre, un petit peu des gens qui sont de la campagne. Et alors, avec cette espèce de décrescendo à la fin, où on se retrouve finalement avec presque les échos de la campagne, de cette musique-là. Alors, c'est une interprétation comme ça que j'ai, mais... c'est ça aussi qui est superbe, c'est que finalement chacun peut avoir son idée d'interprétation là-dedans. Peut-être que si je l'avais écouté dans un contexte liturgique, j'aurais une autre interprétation que celle-ci. Mais il est vrai que souvent, il y a une histoire qui est dite. Alors, pendant que je parle, Emmanuel s'active parce que là, il y a du lourd qui débarque, comme on dit. On vous en a parlé un petit peu, c'est un compositeur majeur pour les organistes, il s'agit de Charles Tournemire. On a un petit peu parlé de la découverte du répertoire, c'est-à-dire qu'on pouvait déchiffrer, on a des recueils, des anthologies. L'avantage, l'énorme avantage avec Tournemire, c'est qu'il a tout écrit pour tous les offices. Donc vous avez votre entrée, votre communion, votre offertoire, votre sortie. Il a composé les pièces pour toutes les dimanches de l'année. Donc si on ne veut pas se fouler, Tournemire est notre meilleur ami. Mais alors il faut dire que c'est un florilège d'œuvres extraordinaires. Et donc là, tu vas nous jouer une pièce qui fait partie des hits, hein, si j'ose dire, le triptyque. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu avant qu'on l'entende?
Peut-être un petit mot quand même sur l'orgue mystique, parce que je ne crois pas que tu aies donné le titre de sa grande œuvre, qui est l'orgue mystique. Donc, comme Jean l'a dit, c'est vraiment une illustration de tous les moments de l'année à l'orgue, et en se basant sur le chant grégorien. Ça, c'est vraiment important. Contrairement à Guillemant, qui n'écrivait pas à partir du chant grégorien, lui, on assiste de toute façon au début du XXe siècle à une renaissance du chant grégorien. On impose le chant grégorien comme chant dans les paroisses, dans toutes les paroisses, et il est source vraiment d'inspiration pour les compositeurs. Il faut dire aussi, Jean, que c'est un recueil qui est très très difficile pour la plupart des pièces, en particulier les pièces de sortie. Donc ça, c'est pas des pièces qu'on va pouvoir déchiffrer et jouer tous les dimanches. Mais en tout cas, c'est vraiment une œuvre monumentale à connaître. Peut-être une des œuvres catholiques organistiques les plus abouties. D'ailleurs, Tournemire lui-même disait que son orgue mystique tout cumulé était plus important que l'œuvre de Bach en nombre de pages. Je ne sais pas pour la qualité, mais alors vous allez entendre. Moi, j'ai choisi de jouer une pièce de sortie qui s'appelle le triptyque, qui est pour la Trinité, donc avec la référence du chiffre 3, et qui est une pièce des plus faciles à écouter parce que il n'y a quasiment aucune touche noire, c'est quasiment tout joué sur les touches blanches. Donc ça aussi, c'est un tour de force d'arriver à faire un morceau qui soit intéressant sur 7 minutes. Et c'est un morceau aussi très particulier pour une sortie parce qu'il finit en décrescendo. Tournemire était assez célèbre pour ses sorties douces. Il y a une anecdote un peu assez célèbre où il y avait toujours des gens à la tribune. Et un élève de Tournemire avait signalé à Tournemire qu'il jouait doucement, que c'était la sortie. Maître, c'est la sortie, maître, c'est la sortie. Et en l'ayant répété 3 ou 4 fois, à la quatrième, Tournemire lui a dit eh bien sortez. Ça prouve bien qu'il avait vraiment une conscience du temps liturgique et de ce qu'il fallait faire à tel moment.
Et donc, nous écoutons, mesdames et messieurs, le triptyque de Tournemire, interprété par Emmanuel Pellapra aux grandes orgues de Notre-Dame du Thor. Thank you. Et c'est donc avec cette incroyable triptyque que tu as bien voulu nous jouer. Emmanuel, je te remercie pour ce beau voyage que tu nous as offert ici. Tu es un peu chez toi quand même, au Thor. On sent une certaine émotion quand même, parce que l'orgue va se taire pendant des années. Donc on est heureux de vous avoir fait découvrir son si particulier sous les doigts de son titulaire. Merci Emmanuel.
Avec plaisir.
Et quant à nous, on va se retrouver la semaine prochaine pour continuer notre voyage dans la musique liturgique. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée sur Radio Présence.